Writers can be solitary figures, but very few successful ones exist in a complete vacuum. Sometimes the relationship between different writers allows them to exchange ideas with like-minded souls and can fire their creativity. These relationships can be unusual, complex, but fascinating, and often influence the work that both produce. In this program, the intertwining lives of Albert Camus and Khatib Yacine in Algeria. But first, two writers from very different cultures who met in Morocco. Both faced huge adversity in their early lives and might easily have drifted and failed to leave their mark on the world. But the French writer Jean Genet and Moroccan novelist Mohamed Choukri used their experiences of life on the fringes of society to become well-known literary figures. They were close friends for decades and also managed somehow to bridge two very different cultures. Jean Genet was born in Paris in 1910, but lived much of his later life in Morocco and was heavily influenced by Arab culture. He met and lived around Palestinians and in his 60s wrote about the Arab-Israeli conflict.
Le dernier livre que Genet a publié juste avant sa mort, c'est Un captif amoureux. Un captif amoureux est un livre largement consacré aux Palestiniens, au séjour qu'il a fait en Jordanie et au Liban, auprès des Palestiniens, dans les camps. Et d'une certaine façon, c'est un livre offert à, comment dire, aux Palestiniens.
كان يناظر من أن من أجل أن الصحافة الفرنسية تتكلم عن الفلسطينيين وعن المأساة التي كانوا يعيشونها في ذلك الوقت. كانت يعني فكرته والتزامه إلى القضية الفلسطينية وضد العنصرية بالنسبة للعمال المهاجرين العرب في فرنسا.
Jean Genet's early years were difficult and he fell into a life of petty crime. He was sent to a detention center aged 15, but when he was released, he joined the French Foreign Legion and got his first taste of the Arab world. After being discharged, he traveled to Morocco.
La relation de Jean Genet avec le monde arabe est très ancienne parce que il fait son service quand il quitte la colonie pénitentiaire où il est détenu. À la fin de son adolescence, il entre dans l'armée et il est envoyé tout de suite en Syrie puis au Maroc.
مدينة طنجة هي ليست مدينة عادية بالنظر إلى تاريخها الطويل والمتقل بالثقافات فهي نقطة محورية في تاريخ العالم وليس في تاريخ المغرب يعني فقط فهي يعني جمعت بين نمط العيش على الطريقة البحر الأبيض المتوسطية المعروف على أنها مرت منها يعني شعوب وحضارات وإمبراطوريات كبيرة جدا أيضا من يأتي إليها لم يكن يأتي ويجد نفسه محصورا أو مرتبطا بلغة معينة لأن اللغة هي أساسية هي أولا أداة تواصل ثم هي أيضا حاملة لفكر وأيضا وسيلة للدخول إلى عالم الآخر المختلف إلى غير ذلك.
Je pense que le fait de se trouver ailleurs et de se trouver au Maroc, c'est-à-dire dans un sur un rebord face à l'Atlantique, donc dans un lieu qui est ouvert, qui est un lieu à la fois qui tourne le dos au Maroc, mais qui est ouvert tourné vers la mer et qui tourne le dos à l'Europe. Je pense que cette position particulière.
When Genet first traveled to Tangier in northern Morocco, he embraced it completely. And it was there he met another writer, the Moroccan novelist Mohamed Choukri. The two men had much in common. They both had very difficult childhoods. Genet was gay and had also been in jail. They lived on the margins of society, in the shadows. But their friendship and literary partnership lasted for decades, and during that time, both became well-known writers.
كانوا التقوا في طنجة مثل ما كان محمد شوكي دائما يتصل بالكتاب الأجانب اللي يروحوا على طنجة منهم تينيسي ويليامز مثلا جون جوني أو لبول بولز إلى آخره.
جوني est au Maroc et محمد شوكي raconte lui-même que c'est lui qui va vers جوني. En plus جوني fréquente les cafés de Tanger, le café de France, et Mohamed Choukri va dans les mêmes lieux, donc ils se croisent, et en se croisant, ils se rencontrent, mais c'est Mohamed Choukri qui va vers Jeunet. Mohamed Choukri le rencontre parce qu'il est à Tanger. Il ne va pas là-bas parce que Mohamed Choukri y est. Il le rencontre là-bas, il est parmi les gens qui l'entourent.
جاء التعارف بين محمد شكري وجون جوني بالنظر إلى الفضاء الجغرافي والثقافي الذي كان يجمعهم في مدينة طنجة. فجون جوني بعد أن قام بالعديد من الجولات في العالم استقر به الحال في مدينة طنجة، ووجد من بين الأشخاص الذين يعني يتواصلون مع الأدباء والموسيقيين والكتاب وأيضا الفنانين الذين كانوا يعني يقطنون بمدينة طنجة، وجد في دائرتهم محمد شكري، ووجد أيضا على أن محمد شكري له مشروع، له رؤية، له وجهة نقد معينة إلى مجتمعه.
dont on lui a dit que c'était un grand écrivain alors que محمد شكري à ce moment-là, était bien incapable de lire Genet. Donc on a quand même une relation paradoxale entre un écrivain qui ne peut pas lire l'autre, entre deux écrivains dont aucun des deux ne peuvent lire l'autre, mais dans leur comportement, dans leurs propos, ils entendent la voix de l'autre. Et je pense que Choukri a très vite compris qu'il avait en face de lui un écrivain dont il pouvait tirer profit.
Their checkered backgrounds made them kindred spirits. Genet's mother abandoned him at 7 months old, and he was raised by a foster family. He left school at 12, and even after his time in the Foreign Legion, he was still in and out of jail for theft, vagrancy, and other crimes. Choukri grew up in Nador and Tangier, in a family where 8 of his brothers and sisters died from neglect. Young Mohamed ran away from home at the age of 11. He only learned to read and write in his 20s. Both he and Genet were completely self-taught as writers, but drew heavily on their experiences of the tougher side of life in their fiction and non-fiction.
أولاً أنا لم أختار أن أعيش في هذه المدينة. أنا اضطررت للعيش فيها، وكان ذلك بداية من عام 1942، قلوا هي أيام الهجرة الريفية.
يمكن الحديث عن مرحلة النشأة والترعرع بالنسبة لجون جوني ومحمد شكري من خلال عدة نقاط يمكن أن تكون متقاطعة ومؤثرة في حياة إبداع كل واحد منهم وأيضا في شخصية كل واحد منهم. فإذا ما رجعنا إلى جون جوني نجد على أنه ولد ولادة خاصة جدا، فأمه أخذته إلى الملجأ وهو لم يعرف والده أيضا. هذا أثر فيه بشكل كبير، لأن الشخص الذي يعيش وهو دائم البحث عن أبيه تشكل لديه الكثير من المشاكل التي يمكن أن تؤثر في حياته. بينما حينما نتحدث أيضا عن حياة شكري نجد على أنه أيضا لم يزدد في فمه ملعقة من ذهب. فالرجل عاش في ضواحي الناظور، عاش طفولة صعبة، انتقلت أسرته إلى الناظور ومنها إلى طنجة لكي تستقر. أيضا عرف التسكع ومارس الكثير من المهن التي يمكن أن نعتبرها هامشية، يدخل المدرسة إلى في سن 20. حينما نعود إلى جون جوني نجد على أنه دخل السجن ترى سرقة بسيطة جدا، فعرف الاعتقال وعرف مشاكل السجن إلى غير ذلك، وعرف معنى الحرية.
مدرسة شوكي الحقيقية هي الحياة، والمعاناة من عنف الآخرين والجوع والفقر والتمرد، هذه حياته، هذه هي التي جعلته يكتب.
Maintenant, effectivement, leur le fait que tous les deux soient des comment dire des enfants perdus, tous les deux aient une enfance abandonnée, qu'ils aient été tous les deux des gens au fond issus de nulle part, même pas d'une frange, on va dire modeste, où ils viennent de nulle part, et il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre, et je pense que ça se traduit aussi par une tendresse de Jeunet pour Mohamed Choukri.
Jeunet's troubled life continued its downward spiral during his 30s. He spent several of those years in prison and wrote his first novel behind bars. Our Lady of the Flowers was published in 1943, and a mere 30 copies were printed of the first edition. But in 1949, things changed for Jeunet. He'd accumulated 10 previous criminal convictions and under French law faced a life sentence. But several leading artistic figures, including the writer Jean Cocteau and the philosopher Jean-Paul Sartre, successfully petitioned the French president to have the sentence set aside. Jeunet was free and never returned to prison. Instead, he threw himself into his writing and became the free-spirited, literary gay icon he's known as today.
حينما نرجع إلى سيرة جون جوني نجد على أنه ذلك الشخص المترحل أبداً، ذلك الشخص الذي اعتبر على أن الأرض ليس لمالكها، الأرض للإنسان يتنقل فيها، يسير إليها، إلى غير ذلك. لذلك كانت دائما روحه متمردة وروحه مترحلة، وروحه أيضا تعبر عن قلق إنساني وتجاه الوجود، تجاه المعرفة، تجاه الجمال، إلى غير ذلك.
While Jeunet and Choukri had a lot in common, there were also key differences between them. Jeunet was 25 years older than Choukri. He'd also travelled widely, while Choukri's life and worldview centred on North Africa. Yet their surroundings presented inspiration at every turn. Tangier was a creative hub, a place where writers came together to share ideas and to collaborate with one another. It was in Tangier that Choukri met the American novelist Paul Bowles in 1972, and Bowles translated Choukri's memoir For Bread Alone into English. It was Choukri's watershed moment. The book described the writer's early life as an outcast, vagrant, and drug user. For Bread Alone was banned in Morocco because of its explicit themes, a ban that lasted until the year 2000.
كنت أشوف شوكي في الشارع في طنجة يأس من العالم لأن لا أحد يهتم به، والمثقفين المغاربة كانوا يهملونه لأنه كان ما كانت عنده ثقافة مهمة يعني، فهو كان يعاني من هذه الوضعية.
محمد شكري حينما كتب الخبز الحافي قال على أنه إن لم يكتب هذا النص لانتحر، أو يعني كان أو صار مجنونا.
هو كانت له إمكانيات أن يشهد عن حياته وأن يتكلم عنها بدون أن تكون له خيار كبير. إذن هو يدخل إلى يأخذ من حياته ما عاشه ويكتب عنها،
وبالتالي استطاع أن يصل أدبه عبر يعني الترجمة إلى ما يزيد عن 90 لغة يعني عالمية، جعلت من محمد شكري ما هو عليه اليوم، وجعلت أيضا أدب محمد شكري ذا قيمة كبيرة من ناحية الأدبية ومن ناحية الاجتماعية ومن ناحية أيضا الفلسفية.
Mohamed Choukri was a familiar face in Tangier's fashionable cafes, bars and restaurants. And it was in one of those cafes that he first met Jean Genet. Shukri approached Genet with some fear and trepidation, knowing the Frenchman's reputation for having a short temper. But they became firm friends because of their problematic early lives and their shared passion for writing.
On voit beaucoup mieux le rapport de Mohamed Choukri à Genet comme modèle plutôt que de celui de Genet à Choukri. Je dirais qu'entre Mohamed Choukri et Jean Genet, on a quelque chose qui est plus qu'un simple rapport de connaissance, mais peut-être un peu moins qu'une amitié. Donc leur rapport a été un rapport d'admiration de la part de Mohamed Choukri, de tendresse de la part de Genet.
Both Genet and Choukri wrote about their childhood and adolescence. Their accounts were raw, sometimes brutal, recounting the harrowing detail of lives dominated by physical abuse, drug use and crime, and in Genet's case, his sexuality. It was a world that would have shocked many readers, but which found a new audience interested in themes which had rarely been written about before. Despite their age difference, their social backgrounds gave them a common purpose. Genet was already well established, but Choukri was an emerging talent. So some observers believe that Genet was Choukri's literary mentor. But that role probably fell to Paul Bowles, the American writer who lived in Tangier for more than 50 years.
اعتبر على ان شكري هو شكري وجون جوني هو جون جوني لانني سبق وان قلت على ان تجربه جون جوني في نظري المتواضع الشخصي هي اغنى بكثير من تجربه محمد شكري بالنظر الى السياقات الاجتماعيه والثقافيه وايضا حتى يمكن نقولوا السياسيه فمحمد شكري هو ابن المغرب كما هو ابن شمال المغرب كما هو ذلك الامازيغي كما هو ذلك الشخص الذي يكتب باللغه العربيه ذلك الشخص المنفتح بكل ما هو عليه ولكن تجربه يعني جون جوني ايضا تجربه الحياه هي اغنى يعني كما سبق وان قلت ولكن يمكن ان نجد بعض التقاطعات فيما يتعلق بالمنجز الادبي بصفه عامه فيما بينهما
أظن أن التأثير موجود لا في الأسلوب الكتابة لا في الأدب لكن التأثير موجود في السلوك الحياتي اليومي العادي لاحظ شوكي أن جون جوني كان مسن عنه يعني كان عنده سلوك دائما تائر لن يقبل أي شيء دائما يعني ينقد الأشياء دائما يتكلم بعنف عن قضايا اللي كانت تهمه
محمد شكري كان يرى في جون جوني ما يراه في نفسه أو المثال الذي يجب أن يصل إليه لأن المرجعية الأدبية والاجتماعية واحدة المرجعية أيضا أو الرؤية للعالم أو المرجعية النقدية واحدة
Tangier in the 1950s, 60s and 70s attracted a wide circle of international writers. They influenced one another creatively and often translated one another's work. They also wrote about each other's experiences, though when Choukri wrote about Genet's life in Tangier, the Frenchman was not at all pleased. The roll call of this Tangier literary circle is long and impressive and includes the American playwright Tennessee Williams, as well as the writers Truman Capote and Gore Vidal. Tangier was a city where they could work without distraction. Writers who were well known in Europe and America could find peace and quiet on the Moroccan coast. They might be literary celebrities at home, but they were anonymous visitors in Tangier.
Dans ces années-là, 70, ou c'est plutôt la fin des années 60, début des années 70, où leurs relations se créent, Genet ne veut surtout pas qu'on parle de lui, ne veut surtout pas qu'on le traite comme un grand écrivain. Il quitte la France pour ne pas jouer le rôle de l'écrivain, du grand écrivain en France. Il va dans une région où personne ne le connaît et il aime cet anonymat et Mohamed Choukri le sort un peu de cet anonymat, donc ça le bouscule un petit peu.
كتابة محمد شكري أغضبت جون جوني لأنه اعتبره على أنه باح بأسرار لم يجب عليه البوح بها. ولكن هذه الأشياء حينما نأخذ منها مسافة يعني تدخل في إطار ما يمكن أن نسميه في ميتا لونغاج ولا ميتا كتابة أو غير التي تغني، بمعنى أن الأدباء والكتاب والفنانين هم ليسوا أنبياء، هم ليسوا معصومين من الخطأ.
Même si le fait que Mohamed Choukri ait écrit sur lui indisposait Genet. Genet n'aimait pas qu'on écrive sur lui. Il n'aimait pas qu'on... Mais il a accepté. Ce qu'il n'acceptait de personne, il l'a accepté de Mohamed Choukri. Parce que c'était un regard qui, peut-être, venait non pas de l'intérieur de sa propre culture, mais d'ailleurs.
Jean Genet spent the later years of his life in Morocco, though not in Tangier. He preferred the relative solitude of the coastal town of Larache, though he also paid occasional visits to France. He was diagnosed with throat cancer and in April 1986 was found dead at a Paris hotel. Genet's body was taken back to Larache, where he was buried in the Christian cemetery.
Lorsqu'il va décider par la suite de s'installer au Maroc, à la fin de sa vie, il va plutôt choisir Larache, El Arache, qui est pas du tout une ville touristique, qui est en dessous de Tanger à plus de 80 kilomètres. Donc son rapport, il passe vraiment par le pays, par le rapport avec le monde arabe.
حينما استقر بمدينة العرايش وأوصى بأن يدفن فيها، وكأن الرجل كان يعتبر مدينة العرايش هي بمثابة البلكونة أو البالكون الذي يرى من خلاله مدينة طنجة، ومن خلاله يشتم مدينة طنجة، ومن خلاله يعتزل الناس ويعيش في برجه الأثير والفسيح والحميم في مدينة العرايش.
Au fond, d'être enterré ici ou ailleurs, je pense que ça ne lui a portait pas. Ce qui lui importait, c'était son œuvre. Et d'une certaine façon, le dernier livre qu'il a écrit reflète beaucoup plus le rapport qu'il a avec le monde arabe que le lieu où se trouve sa tombe. Même si ce n'est pas rien qu'il ait choisi d'être enterré sur le bord du monde occidental, en face de l'Occident, mais de l'autre côté de la frontière, qu'il ait choisi d'être de l'autre côté de la frontière.
Mohamed Choukri also developed throat cancer and died in the Moroccan capital Rabat in 2003, aged 88. Several weeks after his death, his friends in Tangier organized a memorial for him in recognition of his place as an icon of North African literature. Two writers, two different stories. Both connected by their country of origin, but diverging conclusively in their individual sense of national identity. The country that connects the two is Algeria, a French colony from 1830. Both men were born there, and both went on to become successful writers. But that's where the similarity ends. Albert Camus grew up in the French colonial community in Algeria, the so-called Pied Noir, and inherited some of the sense of superiority that went with being the ruling class. But he gradually became aware that there were two sides to this story and suffered something of an identity crisis that would haunt him all his life, and which was inextricably linked to Algeria's fight for independence from French colonial rule.
Ils sont nés à l'est, l'un à Annaba-Houbonne, à l'époque c'est Camus. Camus est né en 1913. Camus va perdre son père très tôt dans la guerre de 14-18, donc il ne le connaîtra pas. Son père va s'engager dans l'armée française pendant la Première Guerre.
والده أصيب في الحرب العالمية الأولى وأصيب بالعمى وبعد فترة توفي. أمه كانت شبه صماء بكماء وعاش طفولة صعبة جدا جدا في الجزائر. وبالتالي فهو ينتمي لهذا الفضاء البيني ما بين بين هوية موزعة هوية منفصمة، لأنه كان يعتقد أنه جزائري وأن الجزائر فرنسية. وفي لحظة من اللحظات اكتشف أن هناك وطن وشعب وتاريخ مختلف.
كتب سينيفي يكريفا.
The writer was Kateb Yassin. He was 16 years younger than Camus and was born into an Algerian family, but of Amazigh descent. The Amazigh, or Berbers, were the pre-Arab people of North Africa. He was originally named Yassin Kateb, but decided to reverse the two words to create the name he wrote under. His family was highly educated, and the young Kateb was brought up on stories of Arab achievement and historic Algerian heroes.
Kateb est né Condé-Smendou à côté de Galma, dans l'Est algérien. Kateb est né en 1929.
Parce que tout simplement, il fait partie d'une famille de lettrés. Donc son grand-père était ce qu'on appelait en arabe Besh Adl, ça veut dire un juriste en fait de droit musulman. Et son père directement était Oukil en arabe, qui veut dire donc avocat de droit musulman. Donc il faisait quand même partie d'une famille de lettrés. Donc il s'en sort pas mal d'une certaine manière. Et plus tard, l'ironie du sort, si je puis me permettre, il faut savoir que Kateb a fait l'école coranique, comme tous les petits Algériens, pour apprendre l'arabe, pour apprendre à réciter le Coran. Mais en même temps, il a intégré aussi à l'âge de 6 ans, comme tous les petits Algériens, en tout cas le peu d'Algériens qui ont été scolarisés, il a intégré l'école française pour apprendre le français. Et dès le début, en fait, comme tous les Algériens qui ont été scolarisés, ben évidemment, ils vont être construits en fait à partir de deux identités. Une officielle en français et une identité en fait authentique, la vraie en tout cas.
National identity shaped both Albert Camus and Kateb Yassin's lives. In Camus' case, he looked and spoke like a Frenchman, but thought of himself as Algerian. He lived as someone of French heritage in Algeria. Growing up, he didn't see any conflict between being Algerian and having a clear French identity. Kateb Yassin also had his own set of identity contradictions. He was of Amazigh descent, but spoke Arabic at home and French at school.
Kateb et Camus, les deux auteurs ont tellement de points communs au départ et beaucoup de divergences à la fin. Kateb et Camus sont nés dans le même pays, comme on le sait en Algérie, et ils vont avoir au départ un parcours presque commun et symétrique. Et plus tard, il y aura des chemins de divergence entre Kateb et Camus.
Kateb, c'est évidemment la langue arabe par l'école coranique et par la culture des pères, mais aussi il est d'origine berbère. Il se définit comme amazigh. Il déteste l'adjectif berbère, d'ailleurs, qui vient de barbarie, donc barbare en français. Une connotation évidemment péjorative. Et lui, il va plutôt préférer l'identité donc amazigh.
Kateb va être, la question de son identité va être plus problématique et je dirais plus douloureuse, dans la mesure où s'inscrivant dans un lignage qui n'était pas le sien, parce que Kateb était issu d'une famille d'arabophones, et il s'inscrit dans le lignage de la mazighité, de la berbérité.
When the Second World War broke out in 1939, over 250,000 Algerian men were recruited to fight in the French military campaign against Nazi Germany. But when France was occupied by the Nazis in 1940, Algerians realized the colonizers could be defeated. By the end of the war in 1945, nationalism had taken hold across Algeria. The French colonial authorities brutally put down protests and dealt harshly with the demonstrators. Especially on Victory in Europe Day in May 1945 in the towns of Sétif and Guelma.
Mais c'est cette génération-là, en fait, qui est née suite à la colonisation, bien sûr, sur des terres algériennes. Et donc, on va se retrouver, évidemment, avec un territoire où vous allez avoir deux Algériens, donc une identité algérienne, mais des Algériens dits indigènes, voire musulmans, parce qu'on va englober pratiquement tout le monde dans l'appellation musulman, mais il y aura aussi les Berbères qui sont chrétiens, etc. Et vous allez de l'autre côté avoir des Algériens d'origine européenne, notamment des chrétiens ou catholiques.
Les Algériens sont des milliers à être enrôlés dans les rangs de l'armée française. Ils participent à la libération de la France. Et quand arrive l'armistice, ils sortent en masse dans les rues et ils disent: est-ce que vous allez nous restituer notre indépendance? La seule réponse de l'armée française, c'est de tirer dans le tas, et l'armée française, l'aviation, va bombarder pendant des jours Skikda, Kharata et Guelma et Sétif, faisant des milliers de morts. Et le jeune Kateb était au collège, il va être arrêté par l'armée française, incarcéré, et sa mère va perdre la raison à ce moment-là. Elle croit que son fils est mort et elle ne retrouvera plus jamais sa raison.
Kateb Yassine was 16 when the war ended. He was arrested in Sétif on VE Day 1945 and imprisoned for 2 months. He became a deeply committed nationalist and in 1947 joined the Algerian Communist Party. He also visited France for the first time and began to work as a journalist. Camus was also in Paris, mainly writing for newspapers.
Autant Camus est parti d'Alger en 1940, il s'est installé directement dans le 6e. Il est devenu lecteur chez Gallimard, il travaillait dans Combat. Donc il a eu une carrière sans misère, sans galère. Il a été tout de suite intronisé grand auteur chez Gallimard et pris sous la coupe de Gallimard. Camus, avec sa beauté, Camus avec son charme, même avec l'accueil de Gallimard, est resté quelque part l'Algérien qui n'était pas de Saint-Germain et qui n'était pas de Paris.
Albert Camus, qui va devenir très rapidement donc un écrivain assez connu, reconnu, hein, que ce soit dans la sphère française, voire européenne, notamment avec évidemment L'étranger, en 43, évidemment le roman le plus célèbre d'Albert Camus, donc L'étranger, comme on le sait, donc tue un arabe, et l'arabe n'a pas de nom dans le roman, ne parle jamais, toujours objet de parole, objet de discours.
Camus' first novel, L'étranger, was originally published in French in 1942. The English edition came out 10 years later under the title The Stranger in North America, but was called The Outsider in the UK. The book tells the story of a French colonizer in Algeria who murders an Arab man on a beach in Algiers. It's thought to express Camus' bleak philosophy about the lack of meaning in life, and was not a bestseller at the time. Camus is much better known during this period for his public clash with Kateb Yassine over the future of Algeria in the daily newspaper Alger Républicain. They clashed openly over France's continuing presence in Algeria.
Kateb, lui, quand il arrive en 1947 à Paris, il avait déjà travaillé comme docker à Alger. C'est-à-dire, vous imaginez, c'était Kateb, il était haut comme ça. mettre des sacs d'un quintal ou d'une tonne sur le dos et les descendre des bateaux. Ça, il l'a fait pendant un moment. Après, il a travaillé comme reporter à Alger Républicain. Après, il quitte le journalisme, il arrive à Paris, dans le 13e rue du Château des Rentiers. Et là, il va servir d'écrivain public, dans une misère noire. C'est-à-dire, jusqu'au bout, Kateb a couru après l'argent de quoi vivre au jour le jour.
La confrontation ou le dialogue extrêmement complexe entre les deux écrivains n'est pas uniquement à partir de journaux, puisqu'ils étaient tous les deux dans Alger Républicain, notamment d'abord évidemment Albert Camus et plus tard donc Kateb Yassine en tant que jeune reporter, qui passait évidemment par Alger Républicain. Mais c'est surtout le dialogue complexe de réponse d'une certaine manière de la part de Kateb Yassine à partir de la littérature et à partir du roman.
In November 1954, the Algerian War of Independence broke out. It lasted 8 long years and led ultimately to Algeria's independence from France in March 1962. The French estimate that around 300,000 people died in the war, but Algerian figures are as high as 1.5 million. It was during the war that Kateb Yassine published his novel Nejma in 1956. On the surface, it was the story of a mysterious spirit woman, but its subtext was about the French occupation of Algeria.
Kateb Yassine, en écrivant Nejma en 1956, évidemment, il écrit dans un contexte littéraire imprégné de l'influence d'Albert Camus par rapport à cette histoire d'identité et de présence de l'Algérien arabe, notamment dans le roman donc L'étranger. Tous les deux romans, en quelque sorte, partent d'une scène de meurtre et tournent autour d'une scène de meurtre. Le premier chapitre donc, de Nejma de Kateb Yassine tourne autour d'un meurtre. Mais là, la grande différence entre L'étranger et Nejma, c'est que les Arabes sont extrêmement présents, Rachid et Lakhdar, donc les deux personnages, les deux personnages principaux, mais avec d'autres, bien sûr, prennent la parole, expriment la violence coloniale et tuent le colon. Donc en gros, l'Arabe chez Kateb Yassine parle, prend la parole. Il devient lui-même sujet de son propre discours. Il prend la parole en plus en français, donc dans la langue du colonisateur.
Il y a une phrase qui revient tout le temps chez les Français par rapport à Kateb. Le français est un butin de guerre. C'est comme si c'était une histoire de... comme si c'était un cadeau. Cette phrase a été très très mal comprise. Kateb dit « J'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français. » C'est la première chose.
Nejma was published at the peak of the Algerian War of Independence and was critically acclaimed. Some observers argued that its central character directly represented Algeria's national identity. At the same time, Albert Camus was catapulted onto the global literary stage. In 1957, he was awarded the Nobel Prize for Literature, the second youngest writer ever to achieve the coveted award. But being in the spotlight exposed Camus to unwelcome attention.
À un moment donné, évidemment, qui dit 56, on était en pleine déjà guerre extrêmement violente qui a déjà commencé officiellement en 1954. Camus, en pleine guerre, a été interpellé à Stockholm par un étudiant dans la salle. Que pensez-vous, en gros, je récite de mémoire, de ce qui se passe en Algérie avec une guerre d'une violence inouïe, terrorisme, des massacres, etc., etc. Et Camus a eu cette phrase en fait extrêmement ambiguë en disant en fait que si ma mère était par exemple dans les souks en fait en gros ou les rues d'Alger et que une bombe avait explosé à côté, il aurait perdu sa mère en quelque sorte. Et donc sa fameuse phrase entre ma mère en fait et la justice, je choisis ma mère. Entre la justice et la mère, donc la mère patrie, la France, je choisis la France.
Camus was caught in a double bind over his stance on Algerian independence. As a left-wing writer born in Algeria, he could well have sided with the country of his birth. But he argued for a compromise well short of full independence. This angered many Algerians who considered Camus to have abandoned their country. Some even called him a colonial apologist.
Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont déterminé le choix du jury?
Bien, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret de l'Académie suédoise, mais je pense d'ailleurs sincèrement qu'il y a deux ou trois écrivains au moins qui méritaient d'être choisis avant moi. Mais puisqu'ils avaient décidé de nommer un écrivain français, peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement.
Awarding Camus the Nobel Prize for Literature was controversial in several ways. First, his age. He was 43 when the Nobel Committee made him a laureate, the second youngest winner after the British writer Rudyard Kipling. But it was his stance on Algerian independence that caused the most controversy. And Khatib Yassin was one of the most vocal critics. On the night when Camus received his prize, Khatib wrote to him directly. And it was not to congratulate him. Instead, he wrote a pointed letter that began, "My dear citizen," a direct reference to Camus' Algerian background. Khatib went on to criticize him for his apparent failure to support Algerians in their struggle for independence. The letter reminded Camus of all those who died in the violent struggle, which was still raging at the time.
كان ضد الممارسات التمييزية للمستعمرين على أهل البلاد الأصليين خاصة كلهم تقريبا مسلمون لكنه لم يكن يدرك أو يصل به وعيه إلى أن هذا الآخر يوم من الأيام سيطالب باستعادة هويته وتاريخه وحضارته.
Camus, comme on le sait, et on vient de le dire, était évidemment foncièrement contre les injustices, mais foncièrement aussi pour que l'Algérie reste dans le giron français, donc française, mais avec plus de justice.
ولم يكن قط مع شيء اسمه استقلال الجزائر ولم يفكر فيه أصلا. هو كان مع حقوق الناس البسطاء في الجزائر وهو ينتمي أيضا لهذا الوسط الشعبي المظلوم أو المغبون نوعا ما وبالتالي لم يكن بالعكس كان هو حتى نهاية حياته يعتقد أنه الجزائر جزء من فرنسا والسبب واضح وبسيط يكاد يكون بديهي أنه ولد هنا ونشأ هنا وبالتالي إدانته لاحقا في مواقفه ليست مبررة كثيرا.
The lives of Albert Camus and Khatib Yassin ran in parallel. They were from the same country and both succeeded as writers. But their identities were different, and they disagreed fundamentally on the question of Algerian independence. On the 4th of January 1960, Albert Camus was killed in a car crash on the way to Paris. He was a passenger in a car driven by his publisher, who also died. Some journalists speculated that the crash had somehow been engineered by the former Soviet intelligence agency, the KGB, but there is little hard evidence to support this. Over half a century later, Camus remains a divisive figure. Some readers find truth, moderation, and justice in his writings. Others have never forgiven him for his failure fully to support Algeria in its war of independence from France. Khatib Yassin continued to write novels and plays, often drawing on his early experience as a revolutionary activist in Algeria. He died in 1989 in the French city of Grenoble. Khatib Yassin and Albert Camus are both recognized for their contributions to Algeria's literary heritage, but always amid the continuing debate over their politics and national identities.